Troisième et dernière partie de notre entretien avec le sénateur-maire d'Arras, Jean-Marie Van Leurenberg. Cette fois, des questions d'ordre national.
Dernière série de questions, si vous voulez bien. Cette fois-ci, ça sera au sénateur que je m'adresse. Donc, une première question d'actualité, hein, c'est sur donc l'élection probable à la présidence du Sénat de Gérard Larcher. Un mot là-dessus?
Ah oui, j'ai vu qu'un groupe parlementaire, le groupe UMP, avait procédé à une élection primaire, autrement dit en son sein, puisqu'il y avait plusieurs candidats, il y avait trois candidats, sans compter les candidats non déclarés. Mais donc M. Larcher était sorti vainqueur de cette joute. Nous aurons à nous prononcer la semaine prochaine, mercredi prochain plus précisément. Le groupe auquel j'appartiens, qui est le groupe centriste, n'a pas pris pour le moment position. Nous attendons de rencontrer M. Larcher déjà pour savoir ce qu'il propose. Je pense qu'il y aura d'autres candidats. J'ai entendu dire que Alain Lambert, qui est d'ailleurs un sénateur aussi du groupe UMP, était lui-même candidat. Je pense qu'on va voir apparaître d'autres candidatures. Nous aurons à nous prononcer et à choisir. Si on vote pour l'un ou l'autre d'entre eux au premier tour, ou si on attend et si on attend pour nous prononcer que les choses se décantent. Je crois que nous n'avons pas, évidemment, même si j'ai beaucoup d'estime pour M. Larcher en tant que sénateur, parce que, vous savez, au-delà des étiquettes politiques, on peut avoir du respect pour la qualité... Et l'engagement d'un homme, qui soit d'ailleurs de droite, de gauche ou du centre. Larcher appartient à ces hommes qui ont démontré, aussi bien au Sénat que quand il était ministre, et je dois dire, quand il a été ministre du Travail, ici à Arras, on a eu à traiter un problème un petit peu difficile, voire douloureux, c'est-à-dire la restructuration de Neil Star. Provoqué par le groupe Rodia, je veux dire que M. Larcher a été d'un soutien précieux, attentif, efficace, comme il l'a été d'ailleurs aussi sur Stora, où il s'est impliqué personnellement, un ministre qui n'a pas seulement délégué à son cabinet, mais qui a réellement, comme on peut dire, dans le cyclisme ou dans le football, il y a mouillé le maillot. Je crois que c'est à prendre aussi en considération. Ce qu'on souhaite au Sénat, c'est d'avoir un président qui soit capable de faire rayonner cette institution, de lui donner le plein épanouissement, puisqu'on va vivre une période intéressante au niveau parlementaire. La Constitution modifie profondément, ça ne s'est peut-être pas ressenti au moment du vote, mais modifie profondément les règles du jeu, puisque c'est le travail dans les commissions qui va aujourd'hui primer sur celui des cabinets ministériels, le travail des commissions parlementaires. Donc, j'attends du président qu'il fasse vivre, en quelque sorte, cette petite révolution qui redonne aux parlementaires un droit qu'ils avaient eu tendance à perdre dans les années dernières, que ce soit d'ailleurs sous un gouvernement de gauche ou un gouvernement de droite. Souvent, les parlementaires de la majorité s'alignaient sur la position du gouvernement. Et ça, je crois que c'est malheureusement un déni du droit des parlementaires de s'exprimer, de parler, puisque parlement, ça veut dire parlementer, ils l'avaient un peu oublié. Je crois que là, on va redécouvrir au Parlement ce que c'est que le débat. Et je pense qu'on attend du président qu'il soit un facilitateur de ce débat respectueux de l'opposition comme de la majorité.
Une question précise, toujours donc au sénateur sur un vote précis sur un texte précis, c'est celui sur les OGM. On a entendu plusieurs sons de cloche sur cette question. Pour peut-être clarifier la situation, quelle est votre opinion sur les OGM en général?
Bon, premièrement, on n'a pas voté sur les OGM. On a voté sur la possibilité d'effectuer des essais d'OGM en plein champ. C'était la transposition d'une directive européenne dans le droit français. Ça existe déjà. Au niveau européen, c'était appliqué dans les autres pays, il fallait le mettre en œuvre en droit français. Et le problème s'est limité à la distance qu'il fallait respecter entre un champ d'OGM et un champ de culture normale, dirons-nous. C'était ça. On a détourné, bien sûr, et les journalistes n'ont pas vraiment, d'ailleurs, toujours creusé la question, hein, pour s'en tenir à dire on vote pour ou contre les OGM. C'est totalement faux. Et puis, il y a un certain nombre de politiques, ARageois d'ailleurs, qui n'ont pas tout à fait non plus compris ou qui ont fait semblant de ne pas comprendre quel était le débat. Moi, j'ai voté, parce qu'il n'y a qu'un vote qui vaut, c'est le dernier. Les autres, ce sont des votes sur des articles, etc. Mais le seul vote qui valait, c'était le dernier. Je me suis abstenu, parce que je n'étais pas totalement convaincu sur que la distance qui était proposée entre les deux champs soit suffisante pour empêcher, en quelque sorte, les pollens de se transférer, quoi. Donc, je me suis dit que la règle de prudence valait là, elle est inscrite dans la Constitution. Donc, je me suis dit, j'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse dans le texte qui nous est proposé. Et donc, je me suis abstenu. Parce que j'avais pas d'opposition de principe sur les OGM. Moi, je ne suis pas pour le retour de la marine à voile ou de la lampe à huile. Je pense que la science progresse et permet de faire progresser l'humanité. Ça, c'est ma conviction profonde. C'est un scientifique qui vous parle. Et je dis simplement, faut toujours border. Justement, ces études scientifiques, ces réflexions scientifiques.
Mais alors justement, si on applique le
Et je
principe
dis, ne pas vouloir faire de l'expérimentation, c'est empêcher tout progrès à la science. Voilà ce que je dis à monsieur José Bové et à tous ceux qui ne veulent pas d'expérimentation et qui fauchent les champs, etc. Ce sont des gens que j'estimerais un petit peu bornés. Dans le sens littéral du terme. C'est-à-dire qu'il ne. Je comprends qu'il faille être prudent, puisque je vous dis, je me suis abstenu. J'aurais voulu une loi plus protectionniste, si vous voulez, plus prudente. Mais je ne peux pas non plus empêcher, et je ne veux pas être assimilé à ceux qui, par déni du progrès de la science, voudraient en rester à la plante d'il y a 3 siècles, etc. De toute façon, toutes les plantes, on le sait, toutes les plantes, tous les animaux se transforment. Même l'homme se transforme. On le voit sous nos yeux. Les hommes sont plus grands, les hommes sont plus forts qu'ils ne l'étaient il y a simplement un demi-siècle. Eh bien, je veux dire, ça, c'est la loi de la nature. Je crois que ça ne se fait pas comme ça, tout simplement, c'est parce que sans que nous le sachions, il y a des transformations profondes qui se sont opérées grâce au progrès de la science, qui protège l'homme. S'il n'y a pas d'ailleurs d'OGM, je pense que nous n'aurions pas aujourd'hui, par exemple, les médicaments, les antibiotiques, etc., qui ont sauvé des millions de vies humaines. Je crois qu'il faut tout remettre en perspective et ne pas bannir. Ce progrès, mais il faut simplement effectivement baliser. Je disais borner tout à l'heure, c'est baliser en quelque sorte le terrain pour éviter les débordements. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le voir entre gens responsables et qui ont le souci du progrès de l'humanité, du progrès de l'homme.
Alors on va passer à la dernière question. Bon, c'est un débat qui est,
bien
sûr, c'est un débat qui est passionnant et bon, j'aurais beaucoup de questions à vous à poser là-dessus. Mais on va parler, si vous voulez bien, de politique des partis, puisque donc vous faites partie du MoDem. Donc, quel est, selon vous, comment vous voyez un petit peu la place du MoDem sur l'échiquier politique et puis notamment peut-être en termes de d'alliance politique.
Écoutez, le MoDem est au centre de la vie politique, je ne vous apprends rien. Il n'est pas évidemment situé dans la majorité actuelle. Il n'est pas non plus franchement opposé. Nous avons toujours dit avec François Bayrou que nous voterions quand les lois, quand elles nous paraissent je dirais répondre à un besoin, répondre de façon respectueuse, bien sûr, des lois républicaines. Donc, nous essayons aujourd'hui de manifester notre opposition quand elle le paraît justifiée. Alors vous avez eu un certain nombre de cas récents, fichier Edwige, l'affaire Tapie, le financement du RSA qui effectivement ne touche pas les plus riches. Voilà quelques exemples parmi les plus récents sur lesquels le MoDem et François Bayrou le premier se sont manifestés contre des décisions du gouvernement qui ne nous paraissaient pas justifiées. Bon. Nous avons l'ambition de construire aussi une société, un projet de société qui soit différent. Nous voulons un projet société humaniste et démocratique. Humaniste, c'est-à-dire juste, c'est-à-dire qui respecte et qui mette l'homme au cœur de tous les projets. Nous avons, et c'est pas pour autant, et ça fait écho à ce que je disais avant sur les OGM, que nous sommes enfermés dans un passé, dans un protectionnisme, un conservatisme. Au contraire, ça s'appelle mouvement démocrate. Donc nous avons l'ambition d'inventer une société créative. Je crois qu'aujourd'hui, il faut libérer toutes les forces créatives dans la société, que ce soit celle des artistes, bien sûr, mais aussi celle des entreprises. Il faut innover, sinon notre civilisation disparaîtra. Or, c'est une civilisation que je souhaite préserver parce qu'elle est démocratique. C'est la première fois, on peut dire, que dans le monde, s'impose progressivement la démocratie. Donc il faut préserver cette civilisation, elle doit être perfectionnée, elle est encore imparfaite, incontestablement. Les guerres qu'on pourrait qualifier de tribales démontrent encore tout le chemin qui reste à parcourir dans la tête des hommes pour vraiment asseoir pleinement cette démocratie. Mais nous voulons une société aussi qui soit juste, qui respecte les plus faibles, qui permette l'épanouissement des enfants. Je crois que dans le domaine éducatif, il y a les deux extrêmes qu'il faut absolument aujourd'hui en France développer, protéger et développer, c'est la petite enfance, là où tout se construit, où l'homme se construit. Et là, il faut investir. Pour que ce que nous essayons de faire à notre modeste place, hein, à la ville d'Arras, en favorisant, je dirais, toutes les politiques qui peuvent développer, protéger et développer l'épanouissement de l'enfant, et à l'autre bout, l'université. Je crois qu'il est intolérable qu'on entre à l'université, qu'on en sorte sans diplôme. Je pense qu'il faut que ça change. Il faut que l'université soit un lieu de réalisation, d'épanouissement. Si on y est entré, c'est pour se construire, construire un adulte capable ensuite de s'insérer professionnellement, s'insérer dans toute la société, dans toute la dimension de cette société. Donc voilà en gros les idées qui nous animent. Je pense que nous aurons dans les semaines qui viennent un parti totalement organisé, puisque nous avons samedi les élections démocratiques du conseil départemental, du conseil des représentants à la conférence nationale et des présidents, puisque c'est une présidence, c'est un collège de présidents qui doit être désigné. Nous le ferons dans le Pas-de-Calais comme on le fait dans tous les départements de France. Donc le Conseil national définitif sera installé à la fin du mois d'octobre et le MoDem pourra ensuite parler aux Français sur l'ensemble du territoire, le maillage de nos dizaines de milliers de militants. Nous sommes 70 000 aujourd'hui, notre ambition c'est d'arriver à 100 000. L'année prochaine pour pouvoir porter le message européen. L'année prochaine, c'est un grand rendez-vous. Je pense que l'Europe, c'est aujourd'hui à la fois notre ultime rempart face à une mondialisation, on l'a vu, dangereuse, mais c'est en même temps notre moteur pour développer notre projet d'humanisme. C'est sur ce projet d'ailleurs que l'Europe s'est constituée. Garantir la paix, mettre fin à la barbarie sur le continent européen, mais aussi construire une société juste, une société humaine, une société qui d'ailleurs dans l'ensemble, sur l'ensemble du territoire du continent européen, a triomphé. Elle a repoussé, je dirais, les nouveaux barbares communistes de l'Union soviétique. Elle a repoussé les tentatives. Je pense que la démonstration vient d'être faite que l'ultra-libéralisme était aussi condamnable que les autres idéologies. Je pense que la société européenne que nous voulons, c'est la société qu'ont voulu les pères fondateurs, Robert Schuman, Jean Monnet, et c'est celle-là, cette société-là, sur laquelle il faut aujourd'hui revenir et qu'il faut construire. Donc notre ambition est forte, notre ambition est grande pour les élections européennes de 2009. C'est un MoDem en plein développement qui ira à la conquête des électeurs.